da jirgin wasu tungule da cikin kuje. Bonsoir et bon début de semaine à tous. Adoption dans les deux chambres du Parlement de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Cette Cour aura pour compétence notamment les règlements des contentieux électoraux. Quelles sont les grandes lignes et les innovations de cette loi? C'est notre thème de ce soir. Pour en parler, je reçois dans cette émission professeur Jacques Njoli. Il est professeur de droit, sénateur MLC et vice-président de la Commission de défense, sécurité, surveillance et frontières au Sénat. Il est en ligne, professeur Jacques Njoli. Bonsoir.
Bonsoir.
Maître Célestin Soundaya Katende, il est député national CPRD et membre de la commission politique, administrative et juridique à l'Assemblée nationale. Bonsoir, Maître Célestin.
Bonsoir, madame.
Et le professeur Paul Gaspard Ngondankoy qui va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Il est professeur de droit constitutionnel à l'université de Kinshasa. Vous êtes très nombreux à nous suivre et à envoyer vos réactions. C'est le cas de Kabawé qui de Béni au Nord Kivu. En quoi cette course est démarquée à celle de la Cour suprême de justice? Venant à Bélo de Matadi au Bas-Congo, espérons que cette fois-ci, on pourra vraiment dire le droit, car on constate souvent que les politiques se mettent au-dessus du droit, ce qui fait que la justice est mal rendue dans notre pays. Si on peut se servir réellement de cette loi qu'on vient d'adopter, je crois que le pays pourra décoller. Merci de nous suivre partout en RDC sur la fréquence FM et à travers le monde sur www.radioopati.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Bien avant d'aborder notre thème de ce soir, on va faire un bref commentaire sur l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Environ 5 700 000 Ivoiriens inscrits sur la liste électorale définitive se sont rendus hier dimanche aux urnes pour élire leur nouveau président. Un scrutin attendu depuis 2005 pour sortir la Côte d'Ivoire d'une crise armée qui dure depuis plus de 8 ans. En dépit des 6 reports, les Ivoiriens se sont déplacés en masse dès l'aube pour voter dans le calme et la sérénité. En attendant les résultats partiels que la CEI publie progressivement, cette élection aura été marquée par le taux élevé des participations des électeurs. René Capita de la radio de l'ONU ici pour les détails.
Pour le Premier ministre Guillaume Soro, le taux de participation atteindrait les 70, voire 80%, étant donné que certains bureaux ont réalisé plus de 90% des taux de participation. En tout cas, pour le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, il s'agirait de l'un des taux de participation aux élections le plus élevé au monde. Yungi Toy.
C'est vrai qu'il y avait des préoccupations, même inquiétudes, quand il s'agit de la situation post-électorale, mais après avoir constaté que tout ce qui était passé à la merveille. Il y a beaucoup d'éléments de quoi se féliciter, comme des taux de participation très élevés, peut-être un des plus élevés dans le monde, des élections récentes. Aussi, nous avons constaté aucune violation majeure des droits de l'homme, pas un seul cas majeur.
L'autre particularité de cette élection, c'est la sécurisation. Le centre de commandement intégré censé assurer cette tâche n'étant pas au point, les forces nouvelles ont sécurisé les élections dans les ex-zones rebelles et les forces de défense et sécurité, forces loyalistes, dans les zones gouvernementales. Bien sûr, sous la supervision des forces dites impartiales, c'est-à-dire les forces des Nations Unies. Malgré des incidents mineurs enregistrés ici et là, notamment lors du transfert des procès-verbaux vers les lieux de centralisation, les observateurs s'accordent à dire qu'en général, tout s'est bien déroulé. Ngolam Dongokwei, adjoint du patron de l'ONU-CI et coordonnateur humanitaire, s'est rendu à Bondoukou, à l'est du pays. Écoutons ses impressions.
Très bonne organisation, très grande affluence, sécurisation bonne et représentants des partis satisfaits. Donc jusqu'à présent, je peux dire que tout se passe bien.
Tout s'est bien passé, c'est également l'avis de la société civile qui a sensibilisé la population en faveur d'un climat électoral apaisé et qui s'est déployé partout dans le pays. Il est également important de relever le fait qu'aucun parti politique ni candidat ne s'est jusque-là livré à la publication des tendances, une attitude qui va dans le sens des prescrits du code électoral. faible. Pour ce qui est de la publication des résultats, jusque-là, la CEI n'a publié que des résultats en provenance de la diaspora. Et vu le système de comptage manuel adopté par la CEI, on peut estimer que, sauf imprévu, c'est demain ou au plus tard mercredi que l'ensemble des résultats provisoires seront connus. Depuis Abidjan, René Kapita pour Dialogue entre Congolais, Radio Kapi.
Merci René Kapita pour tous ces détails. Maître Célestin Tunda, vous êtes député national PPRD et membre de la commission politique, administrative et juridique à l'Assemblée nationale. Votre réaction par rapport à cette élection qui est enfin arrivée, l'Africain qu'on attendait depuis 2005.
Moi, je crois que ma réaction, c'est celle de tout Africain qui doit féliciter le peuple de la Côte d'Ivoire pour avoir tenu des élections dans un contexte apaisé et de manière très sérieuse. Je crois que vous avez suivi de plusieurs les grands ténors de cette élection, c'est-à-dire les trois grands candidats entre guillemets. Eux-mêmes, ils ont estimé que tout s'est passé de manière conforme. Ils sont satisfaits, en tout cas, du processus qui s'est déroulé en ce qui concerne ces élections. Donc, et cela prouve que les Africains sont capables, n'est-ce pas, de beaucoup de responsabilités. Ils sont capables, les Africains, d'exprimer une certaine maturité politique là où les uns ou les autres pouvaient croire qu'il y aura dérapage, qu'il y aurait violence, et voilà que tout s'est passé, n'est-ce pas, de manière satisfaisante pour tout le monde et que la transparence n'est critiquée par personne. Donc, nous attendons les résultats de ces élections de Côte d'Ivoire et je pense que ce sera un exemple pour tous les autres pays d'Afrique, en fait, parce qu'ici, on a vu que tous les candidats ont pris une attitude responsable, n'est-ce pas, pour concourir d'abord aux élections et ensuite éduquer les citoyens, c'est-à-dire leurs membres, et puis en paix, attendre également les résultats qui vont sortir des urnes.
Merci, maître Célestin Tunda, professeur Jacques Ntozi, professeur de droit, sénateur et MLC, vice-président de la commission de défense, sécurité, surveillance et frontières au Sénat. Votre réaction aussi par rapport à cette élection, après ces reports.
Non, je crois que, comme vient de dire notre président, c'est d'abord une grande satisfaction et une grande consolation parce que ça fait 5 ans que le système électoral ivoirien était bloqué et dans un élan commun, ils ont voulu, ce que notre collègue François a dit, avoir des élections apaisées. Et ça, c'est très important. Et ces élections apaisées ont été organisées dans un contexte de consensus global, rythmé et d'ailleurs soutenu par la commission électorale indépendante, dirigée de maître par le professeur Youssouf, qui est lui-même un ancien ministre des Affaires étrangères, et qui a compris que ce n'est que dans un consensus, dans un débat où on met en valeur et en première place l'intérêt national, qu'on peut aller aux élections. Pour ça, il faut qu'il y ait un accord entre les partis pour arriver à ces résultats. Et vous avez suivi que les choses se sont passées très bien, une très grande participation qui se fait dans la transparence et il y a eu des discussions à tout moment lorsqu'il fallait choisir quel mode des déclinements manuels ou électroniques, on a consulté les partis. Et c'est très important de comprendre qu'une élection, c'est d'abord les acteurs eux-mêmes. Et la commission électorale n'est que l'arbitre, l'organe technique, l'instrument de ces acteurs pour arriver à quoi ? À un consensus, pour arriver à créer les conditions d'émergence d'une démocratie apaisée où tous les acteurs ne vont pas simplement pour chercher le pouvoir, mais pour présenter un programme pour faire transformer et avancer leur pays. Et c'est vraiment, comme je l'ai dit, une grande consolation. Et nous espérons que les consensus se déclarent au niveau préélectoral Et maintenant, au niveau électoral, ce processus va continuer et sera consolidé au niveau post-électoral. Et nous, qui sommes sur le chemin des élections, nous allons, n'est-ce pas, nous inspirer de ces modèles, tirer les leçons de 2006, tirer les leçons des autres pays pour dire qu'on n'a qu'un seul pays, qu'on n'a pas lieu à s'affronter, à se tuer pour un pouvoir qui n'était pas changé.
Merci, professeur Jacques Njoli. Professeur Paul Gaspard Ngondanko, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de droit constitutionnel à l'Université de Kinshasa. Vous avez suivi dans le reportage qui est passé tout à l'heure pour le patron de l'ONU-ci. C'est le taux de participation le plus élevé au monde. Qu'est-ce que cela peut inspirer?
Bon, on souligne trop ce genre de choses. Je pense que ça, ce sont des critères extérieurs dans l'organisation d'un processus électoral. Je salue parfaitement le consensus que la classe politique ivoirienne a trouvé sur les conditions d'organisation de ces élections. Je salue la participation des Ivoiriens à ce processus électoral. Mais tout ceci, à mon humble avis, fait partie des conditions préalables. Parce que ce qui importe, c'est quoi? C'est la sincérité du vote. C'est la sincérité de l'interprétation de la volonté du peuple ivoirien. Et ça, ça dépend des conditions dans lesquelles on va procéder au dépouillement des votes, à leur comptage, à leur centralisation, à leur publication. À mon avis, le plus gros reste à ce niveau-là. Pour l'instant, ils ont trouvé un accord pour qu'il n'y ait non pas un comptage électronique, mais un acheminement électronique des résultats déjà comptés à partir des bureaux de vote. Et ensuite, après, on transporte les bulletins de vote jusque au siège de la commission électorale indépendante pour confronter les résultats envoyés électroniquement et les résultats venus physiquement. Je pense que ça, ce sont des conditions de transparence et de garantie qui font que peut-être demain, la Côte d'Ivoire va avoir des résultats des élections qui reflètent le plus fidèlement possible la volonté des électeurs ivoiriens. Parce que ce qui importe, c'est ça. Ce ne sont pas des conditions extérieures. La paix, la sécurité, l'indépendance de la commission électorale, etc. etc. Et si cette commission...
Ça compte pas pour une élection, professeur?
Ça compte, ce sont des conditions préalables qui rassurent tout le monde. Mais ce qui est plus important, c'est que le résultat des votes reflète effectivement la volonté du peuple ivoirien. Et moi, j'attends la maturité du peuple ivoirien à partir de ce niveau-là.
Merci, professeur Paul Gaspard Ngondanko. Revenons à notre thème de ce soir qui porte sur l'adoption et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Elle aura pour compétence notamment le règlement des contentieux électoraux. Quelles sont les grandes lignes et les innovations de cette loi? Les deux chambres du Parlement viennent d'adopter la proposition de loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Les deux chambres du Parlement ont en effet adopté le rapport de la commission mixte paritaire mise en place par les deux chambres en vue d'aplanir les divergences pour les coprésidents de la commission politique, administrative et judiciaire du Sénat et de l'Assemblée nationale. Ce texte de loi répond au vœu du constituant de séparer les contentieux constitutionnels du contentieux administratif. Parmi les compétences de cette Cour, certains analystes citent notamment les règlements des contentieux électoraux. Plus de détails avec vous, Julien Lamoni.
C'est pour renforcer l'indépendance du pouvoir judiciaire face au pouvoir législatif et exécutif que cette loi vient d'être adoptée par les deux chambres. L'objectif est de répondre aux exigences de la Constitution du 18 février 2006, ont déclaré aussi bien le président de la commission PAJ, Toussaint Ekombé du Sénat, que son collègue de l'Assemblée nationale, le député Kambala. Si cette loi est promulguée dans sa forme, elle connaît des recours en interprétation de la Constitution et va trancher de conflits de compétences entre le gouvernement et le Parlement, mais aussi entre l'État et les provinces, ainsi qu'entre les ordres judiciaires. À propos de la compétence pénale, la Cour constitutionnelle et la juridiction pénale du président de la République et le Premier ministre, notamment en ce qui concerne les infractions politiques de haute trahison. Il s'agit ici, selon la loi, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité, ainsi qu'au délit d'initié. Mais le texte de loi est muet en ce qui concerne les infractions politiques commises par les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale.
Merci, Julien Nyamouni. Maître Célestin Tounda, vous êtes député national et membre de la commission politique, administrative et juridique à l'Assemblée nationale. C'est pour renforcer l'indépendance du pouvoir judiciaire face au pouvoir législatif et exécutif que cette loi vient d'être adoptée. Est-ce que vous avez adopté cette loi parce que vous pensez que le pouvoir judiciaire n'était pas ou n'est pas assez indépendant?
Bon, écoutez, là, on ne va pas revenir sur le débat qui ont eu lieu antérieurement, c'est une, disons, vision qui est inscrite dans le, l'exposé de motifs, n'est-ce pas, de, du texte que nous avons d'ailleurs voté aujourd'hui. Effectivement, bon, on peut considérer que, puisque nous allons, à travers cette loi, sortir du système pyramidal, où nous avions une haute, disons, juridiction au sommet, n'est-ce pas, de la justice, c'est-à-dire la Cour suprême, qui regroupait toutes ses compétences au niveau constitutionnel, au niveau administratif, au niveau judiciaire, et que maintenant, par la réforme, cette réforme a été voulue par le peuple parce que elle est consacrée dans la Constitution, qui a été votée par notre peuple. Bon, on peut donc estimer que ça devrait renforcer donc l'indépendance de la justice par rapport à d'autres pouvoirs, bien que ça ne soit pas nécessairement le seul élément, l'élément unique qui puisse renforcer l'indépendance de la justice. Et encore que cette indépendance, on peut l'interpréter de mille et une manières, et c'est comme ça que je dis que ce débat ne serait pas nécessaire pour le moment, mais ce qui est bien, c'est que on n'est pas encore arrivé au bout de la réforme, parce qu'il y a encore d'autres textes que nous devons voter au niveau de l'Assemblée nationale, notamment éclater le système dans lequel nous étions. Le système avec la Cour suprême qui était la haute cour, au-dessus des autres juridictions. Mais ici, nous allons dans un système à trois têtes. Nous allons dans le système à trois têtes, ça veut dire nous aurons cette Cour constitutionnelle, la loi vient d'être votée, nous aurons le Conseil d'État et nous aurons la Cour de cassation. Donc, nous sommes dans la réforme. Le peuple a voté la Constitution puisqu'elle a voulu, elle a accepté cette réforme. Et là, il faut que je précise déjà d'entrée de jeu, parce qu'il ne faut pas qu'on croit que, parce que la population est en train de nous suivre, ou la population suit les travaux au niveau de l'Assemblée nationale ou du Parlement en général, nous ne devons pas considérer que parce que nous venons de voter ce texte, cette loi, et que lorsqu'on va en arriver à la Cour de cassation ou au Conseil d'État, eh bien, nous allons définitivement mettre fin, n'est-ce pas, à tous les antivaleurs, n'est-ce pas, dans le domaine judiciaire. Donc, il faudra beaucoup d'autres efforts, multiples efforts, n'est-ce pas, pour corriger tout ce que... Parce que tout ce que nous sommes en train de faire, tout ce que le constituant a tenté de faire, tout ce que le chef de l'État, dans sa vision, essaye d'orienter, c'est pour qu'il y ait dans ce pays une justice saine, une justice qui sécurise tout le monde, que ce soit les étrangers ou les Congolais.
Elle n'est pas encore là, cette justice, M. Kumba.
Pardon ?
Elle n'est pas encore là, cette justice saine.
Oh, cette justice, ce n'est pas à moi d'apprécier. Je suis Congolais, mais je suis avocat en plus. Donc, je peux vous dire que nous avons encore beaucoup d'efforts, nous avons des efforts à faire pour que la justice devienne une justice humaine, qu'elle devienne une justice professionnelle, qu'elle devienne une justice au service de la population. Donc, il y a encore un chemin à parcourir. Il ne faut pas que nous puissions, à ce stade, donner l'impression que, voilà, nous venons d'adopter le texte sur la Cour constitutionnelle, donc, et c'est la fin de tout ce qu'il y a comme calvaire dans le monde judiciaire.
Merci, maître Félicien Tunda, professeur Jacques Njoli, professeur de droit et sénateur MNC, vice-président de la Commission des Transports, Sécurité et Surveillance des Frontières au Sénat. Selon les deux présidents de la Commission politique, administrative et judiciaire des deux chambres, ce texte de loi répond au vœu du constituant de séparer les contentieux constitutionnel, du contentieux administratif. Vous allez nous aider à comprendre, parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui nous suivent, utiliser des termes simples pour permettre à tout le monde de comprendre qu'est-ce qu'on entend par contentieux constitutionnel et contentieux administratif.
Je dois vous dire que expliquer des choses qui paraissent aussi faciles n'est pas une évidence, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement, nous sortons, n'est-ce pas, du régime transitoire dans lequel nous étions. C'est-à-dire, lorsque cette constitution du 18 février 2006 a été promulguée et entrée en vigueur, il y a la Cour suprême qui est, j'ai toujours dit aux étudiants, un croupion de l'ancien système, qui, n'est-ce pas, avait le pouvoir général, mais qui était à la fois la Cour de cassation, c'est-à-dire la plus haute juridiction pénale, et en même temps la Cour, le Conseil d'État, c'est-à-dire la plus haute juridiction administrative, et enfin la juridiction constitutionnelle, c'est-à-dire la Cour suprême. Nous avions des juges ou des magistrats qui étaient pratiquement des omniscients et qui devaient, n'est-ce pas, s'occuper de tout, n'est-ce pas, de tous ces contentieux. Et pour, n'est-ce pas, marquer une différence avec l'ancien système, il était prévu que nous puissions, n'est-ce pas, faire éclater ces compétences pour que les juridictions de l'ordre judiciaire, c'est-à-dire qui jugent les affaires pénales et autres, et à leur tête, leur haute instance, leur haute gestion, c'est-à-dire la Cour de cassation, comme je l'ai dit, et les juridictions de l'ordre judiciaire, de l'ordre administratif, puissent aussi avoir leur propre organisation, et à leur tête, n'est-ce pas, le Conseil d'État, et voilà aussi la Cour constitutionnelle. Alors, c'est très important parce que, finalement, la démocratie n'est démocratie que si il y a, n'est-ce pas, elle est assise sur un ordre juridique, c'est-à-dire elle est assise sur la Constitution. La démocratie, ce n'est plus une simple déclaration, c'est le juge qui devient, n'est-ce pas, le garant, c'est le juge qui devient le socle de la démocratie. C'est le juge auprès de qui l'opposition, la majorité, ou les citoyens peuvent. Auprès de qui les citoyens peuvent donc aller pour, n'est-ce pas, demander la garantie de ces droits, de ces libertés consacrées par la Constitution. Et jusqu'à présent, nous étions en train de fonctionner, même si nous avons élu les députés, les sénateurs, les présidents, mais avec une justice ayant l'architecture et surtout l'esprit d'un régime post-autoritaire, c'est pas tout simplement autocratique. Et nous espérons que, ça, comme a dit Maître Kiba, ce n'est qu'un premier pas. L'adoption de ce texte ici, qui va déjà nous permettre de garantir que le futur membre de la Cour constitutionnelle sera plus audacieux, sera plus responsable, pourra mieux garantir la régularité des élections futures, et qui pourra mieux protéger les libertés, mieux protéger les compétences et du pouvoir central et du pouvoir provincial, mieux protéger les compétences de l'ordre entre les différentes ordres. Donc, c'est une institution importante qui vient d'être mise en place, mais l'architecture dans son ensemble n'est pas encore instituée. Donc, la machine sera à son degré de maturation lorsque nous aurons finalement mis en place les trois ordres de juridiction. Et ça, il faut le temps, mais il faut surtout que le juge, donc l'acteur principal, puisse comprendre sa responsabilité vis-à-vis de la nation pour l'émergence d'un régime démocratique. C'est bon, mais c'est surtout les hommes, les acteurs, qui vont ne pas donner consistance et réalité au texte.
Merci, professeur Jacques Ndoli. Professeur Paul Gaspard Ngondakoy, vous êtes professeur de droit constitutionnel à l'Université de Kinshasa. Votre réaction d'abord par rapport à l'adoption de cette loi?
Je crois que c'est un pas important vers la voie de la réforme judiciaire dans notre pays, décidée par la Constitution de 2006. Vous savez que la Cour suprême actuelle, comme vient de le dire le professeur Jacques Ndoli, était un tout petit peu polyvalente. Elle exerçait toutes les compétences en matière constitutionnelle, administrative et judiciaire. Et depuis la Constitution de 2006, on a décidé l'éclatement de la Cour suprême de justice en trois cours. La Cour constitutionnelle, le Conseil d'État et la Cour de cassation. Chacune de ces grandes juridictions étant à la tête d'autres petites juridictions, donc étant à la tête des ordres juridictionnels différents. Alors vous dites, quelle est la différence entre les contentieux constitutionnels et les contentieux administratifs? La différence, simplement, c'est que la Cour constitutionnelle va s'occuper de tous les litiges qui touchent à la Constitution, à son interprétation, à l'appréciation de la constitutionnalité des lois et des autres textes juridiques, au contentieux électoral, au jugement pénal du président de la République et du Premier ministre, etc. Tous les litiges qui touchent à la Constitution relèvent de la compétence de la Cour constitutionnelle. En revanche, les litiges qui touchent aux actes administratifs par rapport à leur légalité, c'est le Conseil d'État et la juridiction. Et la Cour de cassation va s'occuper des affaires pénales qui concernent les plus hautes autorités du pays, elle est à la tête, comme je l'ai dit, des autres juridictions. Donc, c'était un pas important vers la réforme judiciaire, mais comme on vient de le souligner, l'adoption d'une loi ne suffit pas. Encore faut-il qu'il y ait des hommes de qualité pour pouvoir piloter ces juridictions. Et je crois que, pour l'instant, le vœu de tout le monde, c'est que la Cour constitutionnelle de demain ne ressemble pas à la Cour suprême de aujourd'hui.
Alors, parlant de ces personnes qui doivent piloter cette Cour, la loi dit que les membres de la Cour sont nommés par le président de la République, dont trois sous sa propre initiative, trois désignés par le Parlement, réunis en Congrès, et trois autres par le Conseil supérieur de la magistrature. Comment garantir l'indépendance de ces magistrats qui vont composer cette Cour, s'ils sont nommés, qui par le président, qui par les Sénats réunis en Congrès, qui encore par le Conseil supérieur de la magistrature?
Disons que c'est déjà le vœu du constituant. C'est l'article 157 de la Constitution qui le dit comme ça, je crois, ou 158. Donc, la Cour constitutionnelle sera composée de 9 membres, dont 3 sont nommés par le président de la République à titre tout à fait personnel, 3 autres par les congrès, c'est-à-dire la réunion de l'Assemblée nationale et du Sénat, et 3 autres par les conseils supérieurs de la magistrature. La Constitution dit aussi que les 2/3 des 9 membres doivent être des juristes. Alors, comment garantir leur indépendance? Effectivement, jusqu'à aujourd'hui dans le monde, on n'a pas encore trouvé la meilleure façon de désigner les juges constitutionnels. Dans la plupart des cas, on dit toujours qu'ils sont nommés soit par le Parlement, soit par la justice, soit par le président de la République. On peut instituer un système électoral, mais ce n'est pas encore une garantie. Moi, je dis toujours que la meilleure garantie pour toujours, c'est son indépendance personnelle, sa psychologie personnelle vis-à-vis des autres autorités. Car, comme le disait Robert Badinter, lorsqu'on vous nomme à la Cour constitutionnelle, il faut exercer ce qu'il appelle le devoir d'ingratitude. C'est-à-dire, même si vous êtes nommé par des autorités, vous n'êtes pas tenu de faire la volonté de ces autorités. Vous appliquez la volonté de la Constitution, du constituant, même si les autorités vous demandent de faire autre chose. En ce moment-là, vous êtes obligé d'être ingrat. Et moi, je dis toujours que les juges, à ce niveau-là, sont des monstres quoi, qui n'ont pas d'état d'âme, qui n'appliquent que la Constitution et qui ne voient pas d'autres considérations. Il faudrait espérer vraiment que les futurs membres de la Cour constitutionnelle auront cet état d'esprit, et c'est la seule manière de garantir leur indépendance.
C'est déjà dans l'air des faits.
J'espère bien, c'est mon jeu le plus ardent.
Alors, Maître Célestin Tounda, la Cour constitutionnelle est la juridiction pénale du président de la République et du Premier ministre, notamment en ce qui concerne les infractions politiques des hautes trahisons. Vous pouvez nous expliquer en termes clairs ce que ça veut dire?
Oui, disons, j'aurais pu, parce que là ils sont carrément, je ne sais pas si je vais retrouver le texte, mais il y a la haute trahison dans les cas d'espèce, notamment, c'est lorsque le président de la République ou le premier ministre décide par exemple de vendre une partie, de céder une partie du territoire national. Alors, cet acte-là est considéré comme un acte de haute trahison. Il y a aussi le fait que et le président de la République ou le premier ministre se comporterait de manière à violer la Constitution. Alors, cela pourrait également être considéré de cette manière-là. Mais ce qui est bien, c'est que le texte de loi que nous avons adopté aujourd'hui précise en fait la question que vous posez, les infractions. Elle connaît aussi des infractions. Pour ce qui concerne la haute trahison, c'est lorsque le président de la République a violé intentionnellement la Constitution, ou lorsque lui ou le premier ministre est reconnu auteur, co-auteur ou complice de violations graves et caractéristiques des droits de l'homme ou de cession d'une partie du territoire national. C'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Alors, également, on peut assimiler à cette infraction de haute trahison lorsque le président de la République, par exemple, tente, ça c'est dans les textes, donc de la loi qui a été votée, tente, institue ou tente d'instituer un parti unique, sous quelque forme que ce soit. Ou alors, il manque à son devoir de sauvegarder l'unité de la République et l'intégrité de son territoire. C'est également un acte qui est considéré comme étant un acte de haute trahison. Ou bien le président de la République ou le premier ministre.
Dans ce cas, la Cour constitutionnelle a le droit de poursuivre le président de la République
oui,
ou le premier ministre.
Justement, le président de la République ou le premier ministre, parce qu'à ce moment-là, il s'agirait d'un acte de haute trahison. Disons ça, c'est la qualification même de l'infraction. Troisièmement, lorsque le président de la République ou le premier ministre se permettrait de détourner les forces armées de la République à des fins propres. Parce que là, ça peut arriver. Les forces républicaines, les forces armées de la République, qui seraient à ce moment-là orientées vers des activités personnelles qui n'ont rien à voir avec la République. Et là, il ne faut pas confondre avec la garde présidentielle, avec la garde qui est en charge de surveiller la sécurité du chef de l'État. Ça fait deux choses tout à fait différentes. Il y a également le fait d'organiser des formations militaires ou paramilitaires ou des milices privées, n'est-ce pas, ou d'entretenir une jeunesse armée, c'est-à-dire organiser des forces paramilitaires, militaires ou une jeunesse armée. Donc ce seraient des forces qui ne sont pas identifiées par, disons, les effectifs de l'armée nationale, de l'armée républicaine. Voilà encore des exemples qui sont cité dans la loi, donc on n'imagine rien. Ça, ce sont donc ce qui est prévu dans la loi, l'article 74 de la loi que nous avons votée aujourd'hui, qui sera bientôt promulguée. Voilà comment on peut, n'est-ce pas, identifier les cas faisant partie de la haute trahison.
Merci, Maître Célestin Tunda, professeur Jacques Kondouli. Pourquoi les textes restent muets en ce qui concerne les infractions politiques commises par les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale?
Mais je ne sais pas exactement ce que vous attendez par infraction politique. Comme l'a dit Maître Ngouda, le professeur Ngouda Koï, ce texte est une mise en œuvre, n'est-ce pas, des infractions liées à la Constitution. Il s'agit en fait de l'émergence de ce qu'on appelle le droit constitutionnel pénal. Parce que très souvent, il y avait des infractions qui étaient plus ou moins déclarées dans les textes, mais qui, dans la pratique, ne trouvaient pas leur mise en œuvre à travers une législation adéquate. Alors, l'avantage, n'est-ce pas, de ce texte, c'est d'abord de traduire les préoccupations fondamentales de notre Constitution qui voudrait qu'il y ait fonctionnement harmonieux des institutions, qu'on évite les conflits, qu'on instaure un état de droit, qu'on évite les dérives dictatoriales, qu'on instaure la bonne gouvernance, qu'on lutte contre la l'impunité et qu'on assure l'alternance démocratique. Ça, ce sont les préoccupations majeures de notre Constitution. Alors, ces préoccupations majeures sont déclinées à un certain nombre des prescrits, des orientations et, n'est-ce pas, des infractions. Et ces infractions, maintenant, dans cet avantage, c'est qu'on précise, on définit ces infractions et on commune le peine. Ce n'est plus un droit constitutionnel abstrait, putatif, c'est un droit constitutionnel concret parce qu'il y a les infractions, il y a l'organe de poursuite, il y a le peine et même les mesures, n'est-ce pas, à l'exécution. Alors, en ce qui concerne le président de l'Assemblée et le président du Sénat, mais je crois qu'il faut chercher dans la législation nationale les infractions qui peuvent commettre. Et ici, je crois que c'est la Cour de cassation, n'est-ce pas, qui est compétente en ce qui concerne les membres du Sénat et les membres de l'Assemblée nationale. Donc ici, il s'agit essentiellement de plus haute autorité du pays, à savoir le président de la République et le premier ministre. Est-ce que c'est une présomption vis-à-vis du pouvoir exécutif, qui est un le pouvoir qui est au four et moulin et qui, n'est-ce pas, dans la pratique, a été impliqué, n'est-ce pas, dans tout ce comportement des dérives, des tentatives de confiscation des pouvoirs, des tentatives d'intégration du parti unique, des dérives initiées et autres. Donc, c'était un choix. Et ici, je crois, les deux présidents de chambre, n'étant pas très souvent en Afrique, les acteurs principaux de la délinquance politique et constitutionnelle, je crois que c'est pourquoi on n'en a pas parlé, et ils sont laissés leur sort, du moins, reste lié à la Cour de cassation.
Merci, professeur Jacques Ndoli, professeur Paul Gaspard Ngondankoï. Est-ce que les deux présidents des deux chambres ne peuvent pas violer la Constitution?
Bien entendu. Mais il faut vous dire que la loi qui vient d'être votée, c'est une loi de mise en application des dispositions de la Constitution qui concerne uniquement la Cour constitutionnelle. Et la Constitution précise les justiciables de la Cour constitutionnelle. Il s'agit du président de la République et du Premier ministre. En même temps, elle détermine les infractions qui leur sont reprochables. Donc, la loi ne pouvait pas aller au-delà. Pour ce qui concerne le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat, il faut attendre la mise en œuvre de la loi sur la Cour de cassation. Cette loi-là va organiser les procédures de mise en accusation du président du Sénat ou du président de l'Assemblée nationale, etc. Mais est-ce qu'ils peuvent commettre l'infraction de haute trahison? Pour l'instant, aucun texte juridique ne le dit, ni la Constitution, ni les lois existantes. Mais il est clair que demain, si la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour de cassation, à l'instar de la loi qui vient d'être votée, étendant ces infractions-là à ces deux autorités, elles seront tout à fait justiciables de la Cour de cassation sous la base de ces infractions-là. Je voudrais revenir un tout petit peu en arrière pour insister sur les compétences de cette juridiction. Vous soulignez trop les contentieux électoraux, c'est une compétence importante. On vient de parler de compétences pénales, mais la première compétence d'une juridiction constitutionnelle, c'est l'appréciation de la constitutionnalité des actes juridiques, entre autres des lois, et dans le cas du Congo, y compris même des actes administratifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les lois qui sont adoptées au Parlement peuvent être sanctionnées par la Cour de cassation, par la Cour constitutionnelle, à l'occasion de la vérification de leur conformité à la Constitution. La souveraineté n'est plus aujourd'hui seulement au Parlement. La loi, le Parlement n'exprime plus la souveraineté populaire. Il ne le fait que dans le respect de la Constitution. Ce qui veut dire que le juge constitutionnel doit à chaque instant voir si les lois votées au Parlement sont conformes à la volonté du constituant. Autre compétence importante, c'est l'interprétation de la Constitution. Demain, comme on en a vécu, s'il y a un problème d'interprétation sur les notions de retenue à la source ou de rétrocession, etc., devant quel organe est-ce qu'on va poser le problème? C'est devant la Cour constitutionnelle. Demain, les conflits de compétences entre les provinces et l'État central. Par exemple, aujourd'hui, j'entends qu'il y a des conflits concernant l'institution des taxes, etc., qui doit prendre des mesures, etc. S'il y a un conflit qui persiste, c'est la Cour constitutionnelle qui doit le trancher. Et puis, n'oubliez pas que l'une des compétences aussi importantes de la Cour constitutionnelle, c'est de recevoir le serment du président de la République. C'est également de contrôler le patrimoine familial du président de la République et du Premier ministre à l'entrée ou comme à la sortie des fonctions. Donc, c'est une juridiction importante qui va exercer un certain nombre de compétences qui vont consolider la démocratie, parce que la démocratie n'est démocratie que quand elle est basée sur la Constitution, qui est le texte fondamental d'un État. Alors, autre question que vous avez soulevée, c'est justement la haute trahison. La haute trahison, le cas de haute trahison, Maître Kimba les a rappelés tout à fait parfaitement bien. Et la haute trahison, si demain la loi sur la Cour de cassation l'accepte, ça peut être étendu aussi aux autres autorités du pays. Pourquoi, par exemple, membre du gouvernement?
Alors, professeur Paul Gaspard, vous êtes satisfait de l'adoption de cette loi, mais en quoi, quelles sont les innovations de cette loi par rapport à la Cour suprême de justice?
Oui, par rapport à la Cour suprême de justice, la première chose, c'est que c'est une juridiction totalement indépendante.
La Cour suprême n'était pas indépendante?
Non, indépendante vis-à-vis d'abord du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, et indépendante vis-à-vis des autres juridictions qui vont exister, la Cour de cassation, le Conseil d'État, etc. Deuxième élément, c'est que c'est une juridiction qui ne va s'occuper que du contentieux constitutionnel. Tout ce qui concerne les affaires constitutionnelles, c'est du domaine de la Cour constitutionnelle. Or, la Cour suprême de justice qui s'occupe un peu de tout. Du contentieux administratif, du contentieux judiciaire, du contentieux constitutionnel, etc. Et troisièmement, il espère la plus grande différence sera la qualité des membres. La qualité des membres qui seront partie de cette juridiction.
Merci, professeur Paul Gaspard Ngondankoï, maître Célestin Tunda. Les mêmes innovations? Oui. Que le point vient d'énumérer.
Oui, effectivement, la Cour, dont le texte a été voté aujourd'hui, a ses attributions, attributions qui sont bien précises. On l'a énuméré en matière de conformité de loi, en matière d'interprétation de la Constitution, disons, les aspects pénals lorsqu'il s'agit du président de la République ou du premier ministre, comme on l'a dit. Donc, les attributions sont exactes et précises pour cette juridiction. Ensuite, c'est une juridiction à part, à proprement parler, donc qui est isolée par rapport aux autres juridictions et par rapport aux compétences telles que c'est exercé au niveau de la Cour suprême. Mais ce que je voudrais dire aussi ici, parce que l'opinion est en train de nous suivre, il ne faut pas qu'on ait l'impression qu'on a créé de nouvelles attributions nécessairement pour cette Cour constitutionnelle. Ce sont des attributions, n'est-ce pas, des matières qui existaient, mais au sein de la Cour suprême de justice. La différence, c'est que la Cour suprême de justice a été éclatée en trois ordres différents, comme on l'a dit, le Conseil d'État, la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, et maintenant la Cour de cassation, avec les matières qui étaient fusionnées au sein de la Cour suprême, elle devient une juridiction à part et elle va gérer ces matières de manière séparée en ce qui concerne tous les problèmes qui sont liés à la Constitution. Donc il ne faut pas croire que nous venons de voter une loi et nous avons inventé des matières. C'est ça qui est important.
Merci pour la précision, maître Célestin Toun. Nous allons prendre quelques réactions des auditeurs. Matoumaïne est en plein de Boukav aussi qui vaut. La loi votée par les parlements est vraiment importante, mais les doutes qui persistent sont celles de la forte politisation et la corruption qui font aussi leur loi dans la justice congolaise. Adrien Lobakwaï Perro de Kananga, Kasa Occidental, pourquoi voter seulement la loi organisant la Cour constitutionnelle alors que la Constitution parle aussi de la Cour de cassation et du Conseil d'État? Est-ce que cela veut dire que la Cour constitutionnelle est plus importante que les deux autres? Il est rare de longue à de Bouni en province orientale. Organiser la Cour, c'est bien, mais qu'est-ce qui pose que nos juges ne tomberont pas dans les jeux des tendances politiques souvent décriées? Blaise Osongo de Kananga, Kasa Occidental, une Cour constitutionnelle est une avancée si elle ne vient pas déjouer les attentes des Congolais engagés sur la voie des élections. Professeur Jacques Ntoli, comment vous réagissez aux réactions de ces auditeurs?
Non, en écoutant les uns et les autres, je me rends compte qu'il y a une grande espérance sur la Cour constitutionnelle, mais en même temps, une sorte de scepticisme. Et cela se comprend lorsqu'on fait l'histoire de l'évolution politique et constitutionnelle dans notre pays. La Cour constitutionnelle, depuis 1960, cette cour était prévue dans toutes les constitutions, mais ça restait dans une stature décorative et qui ne parvenait pas à jouer son rôle. Or, il est dit que, en fait, la constitution est ce que le juge dit qu'elle est. S'il n'y a pas de juge pour donner consistance, réalité à la constitution, eh bien, la constitution reste un simple chiffon de papier. C'est lorsque la Cour constitutionnelle se met en place que la constitution entre dans le domaine du droit. Et voilà pourquoi nous espérons qu'avec l'adoption de ce texte, nous allons passer de la fiction à la réalité. Merci. L'autre chose, soulignée par notre ami, c'est notre juridiction. C'est très important qu'on ait une vision synchronique et qu'on ne s'arrête pas là-bas et que nous puissions aller très rapidement vers les autres juridictions pour que nous puissions avoir une architecture complète.
Merci, professeur Jacques Joly. Je considère cela aussi comme votre conclusion. Maître Tunda, en 30 secondes, conclusion.
Oui, ma conclusion, c'est que c'est une bonne chose qu'on en soit arrivé là. C'est un premier pas, comme on a dit. Parce que vous savez, il y a d'autres pays comme le Sénégal aujourd'hui, qui étaient dans ce système dans lequel nous venons d'adhérer aujourd'hui, mais qui ont fait un recul pour entrer au système de la Cour suprême. Donc tout dépend des hommes. Et des hommes de qualité qui doivent animer ces structures, et c'est ça qui est important.
Merci, M. Tunda. Professeur Paul Gaspard, mon encore une conclusion.
J'espère vraiment que la loi va être promulguée rapidement dans les délais constitutionnels. J'espère aussi que les différentes autorités vont nommer des magistrats de qualité à la Cour constitutionnelle pour une jurisprudence de qualité et éviter à notre pays ici des arrêts sur commande politique.
Merci, professeur. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais. Céline Couture vous l'a présenté, Jean-Claude Fiala a été à la technique, bon tour de programme sur la fréquence de la paix.
Chocolatine, chocolatine.